tous. Alors j'ai sélectionné les versets des psaumes qui viennent de vous être lus par rapport au thème que j'ai indiqué, puisque je vais parler ce matin du culte personnel. Alors j'ai choisi de parler sur ce 9 juin, hein, du culte personnel parce que je pense aux vacances. Et souvent en vacances, c'est l'occasion, puisqu'on est un peu plus libre et détendu, de mettre certaines choses en place dans nos vies qui ont du mal à se trouver tout au long de l'année, où là il y a beaucoup d'activités, beaucoup de besoins, de pression. Et le culte personnel est un des éléments fondamentaux de notre relation avec Dieu. Et donc profitons peut-être, pour certains d'entre vous, de ce temps de vacances pour s'habituer à ce culte personnel d'une manière régulière, pour ensuite pouvoir en bénéficier tout au long de l'année, malgré la surcharge de travail et les préoccupations multiples qui sont les vôtres. Le culte personnel était pour Jésus la priorité numéro un. En Marc chapitre 1 verset 31 et 35, nous lisons « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il, donc le Seigneur, se leva et sortit dans un lieu désert où il pria. » Toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 46, nous découvrons les choses suivantes concernant la vie de notre Seigneur. « Quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Et avant de faire le choix de ses apôtres, enfin de ses disciples qui vont devenir pour certains d'entre eux des apôtres, le texte inspiré nous dit en Luc chapitre 6 verset 12, « Il se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Alors ne pensons pas que le Seigneur Jésus-Christ avait des journées détendues. Il connaissait la pression, il faisait énormément de choses. Pendant une journée, quand on parcourt les évangiles et qu'on regarde un petit peu ce que le Seigneur faisait dans ses journées, mais il avait des journées surchargées. Et c'est pour ça qu'il se levait de bon matin, voire après avoir renvoyé la foule, il montait dans un lieu solitaire et calme pour s'adresser à Dieu son Père. Enfin, il puisait évidemment toute sa force dans cette intimité avec Dieu et dans ces moments particuliers avec lui. Pour Jésus, le culte, donc ce temps passé en présence de son Père, c'est avant tout l'entretien personnel avec Dieu, son Père. Et c'est pour ça qu'il va nous dire en Matthieu chapitre 6, dans ce qui est convenu d'appeler le sermon sur la montagne, cette juste et sage instruction: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. C'est donc une invitation à un temps de rencontre avec Dieu qui est adressé à chacun d'entre nous au travers de cette parole du Sauveur, avec une instruction pratique. Mets-toi à l'écart, rentre dans ta chambre, ferme la porte pour être tranquille et ne pas être sollicité par d'autres personnes, et prie ton Père qui est là dans le secret. Comme vous le savez, le culte biblique est avant tout une relation personnelle de l'homme avec Dieu, contrairement à la plupart des autres religions, où les autres religions s'adressent à des intermédiaires entre la divinité qu'ils adorent et puis eux-mêmes. Dans les Saintes Écritures, il nous est demandé d'avoir une ligne directe en quelque sorte avec Dieu, puisque c'est ce qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert le chemin qui nous permet d'accéder directement à Dieu, notre Créateur. Et le roi David va nous donner dans les psaumes un modèle de culte personnel. Par exemple, dans le psaume 13, verset 6, le roi David dit « Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien ». Dans le psaume 5, verset 8, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple ». Dans le psaume 9, verset 2, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Et puis, pour terminer ces citations, concernant David, dans le psaume 103, verset 1. « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et nous assistons là à un dialogue avec lui-même. Il dit « Mon âme loue l'Éternel ». Il y a donc une interpellation de lui-même. Hein. Il secoue en quelque sorte son âme et c'est sa volonté qui s'adresse à son âme et à son esprit et qui dit « Mais louez l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est donc le privilège de tout croyant, en tant que prêtre du Très-Haut, de pouvoir célébrer à tout moment son culte personnel. En Jésus-Christ, nous sommes devenus des prêtres et des rois. Ah, d'accord. Un prêtre, j'ai cru que c'était ma Bible qui était tombée, là je me dis, oh là, elle est drôlement lourde pour faire un bruit pareil. Dans les Saintes Écritures, ce que Jésus-Christ a réalisé par son sacrifice sur la croix, c'est non seulement le fait que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, devenir le peuple de Dieu, et en même temps, à l'intérieur de ces deux grands axes, hein, salut personnel, pardon des péchés, et intégration au peuple de Dieu, parce que n'oublions pas que nous sommes un peuple, nous ne sommes pas simplement des individus sauvés, nous avons été sauvés pour former un peuple. C'est ce que la volonté donc, de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui le loue, qui le serve et qui l'adore. Alors, le Christ a fait de nous des prêtres, dans le sens biblique du terme. Le prêtre, c'est celui qui officie, qui rend, présente l'offrande, qui présente le sacrifice à Dieu. Et qui que nous soyons, si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes prêtres et rois. Et à ce titre de prêtre et de roi, nous avons donc un office qui ne vient pas d'ailleurs que du cœur. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fonction. C'est un élan du cœur qui fait qu'en tant que prêtre et roi, nous rendons un culte, nous adorons le Seigneur, nous chantons ses louanges. C'est pour cela que dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9, il est dit « Vous, au contraire, par rapport à ceux qui ne croient pas, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Ça, c'est pour chaque chrétien sur toute la surface de la terre, c'est donc pour vous, pour moi. Nous sommes un sacerdoce royal. Et puis en Apocalypse, chapitre 1, verset 6, un verset que nous chantons, il est dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ceci étant dit, quels sont les différents aspects du culte personnel ? Nous pouvons commencer par exemple par des prières de remerciement. C'est ce qui semble être la suggestion en quelque sorte des Saintes Écritures. La parole de Dieu insiste sur la prière de remerciement. Dans le psaume 50, verset 14, il est dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce ». Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, non pas des actions matérielles, une activité, des projets, non, un temps où on s'arrête et on remercie Dieu. Ensuite, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 4, il est dit qu'on entende plutôt des actions de grâce en comparaison avec peut-être des propos qui ne sont pas convenables, qu'on entende plutôt parmi vous des actions de grâce, donc des actions de remerciement. En Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par des prières, avec des supplications et des actions de grâce, tous vos besoins. » Et en Éphésiens, chapitre 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toute chose, remerciez pour toute chose. » Si l'on commence sa journée par remercier Dieu, on s'habituera rapidement à répéter les sujets de reconnaissance tout au long de la journée et à les apporter immédiatement à Dieu. Au lieu d'avoir, comme il arrive parfois dans le cœur de certains, des plaintes comme la plupart de ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Moi, je suis toujours frappé quand je rentre en contact avec des non-chrétiens. Ils sont souvent assez négatifs, hein, pour certains d'entre eux, hein, ils se plaignent, etc. Et le chrétien, lui, au contraire, remercie. Quand vous remerciez, vous voyez les choses autrement. Hein. Même quand c'est difficile, vous voyez vraiment la vie autrement quand vous avez appris à remercier, à dire merci. L'action de grâce nous conduira tout naturellement vers la louange, qui dépasse l'aspect personnel pour se concentrer sur Dieu lui-même, sur ses perfections et son œuvre. La louange, c'est donc se tourner vers Dieu. L'action de grâce, c'est évidemment se tourner vers Dieu, mais en se souvenant de ce qu'il a accompli dans nos vies. Là, la louange, c'est regarder Dieu, ce qu'il est, sa personne, pour le louer. Et la louange peut s'exprimer de bien des manières différentes dans le culte personnel. Par exemple, ça peut commencer par la lecture d'un psaume. J'ai passé vendredi soir un petit peu plus d'une heure au téléphone avec un chrétien que je connais depuis pas mal d'années et qui me demandait, mais le culte personnel, Jean, comment tu fais ? Et moi, je lui ai dit, mais toi, parle-moi de toi, comment tu t'y prends ? Puis en l'écoutant, j'ai enregistré deux choses. La première, je vous la dirai tout à l'heure. La deuxième, je vais vous la partager maintenant. La deuxième, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait comme une tension chez lui. Tendu, chrétien tendu. Alors, ça nous met, les pasteurs, ça nous met toujours en éveil, un chrétien tendu. Un chrétien, ça doit être joyeux, conscient de ses responsabilités, mais heureux, quoi. Alors, j'enregistre là, puis ensuite, j'écoute ce qu'il me dit, bien entendu. Et je prends conscience que l'écriture, donc c'était ça la première chose que j'ai relevée, l'écriture sainte était dans son moment de culte, mais complètement à la fin, et pendant son transport collectif dans le métro. Il me disait, moi, je me lève le matin, je m'adresse à Dieu, je prie. Mais il me dit, mes pensées partent partout, des fois, je ne sais plus où je suis, quoi. Et puis je reviens à Dieu, puis j'ai un mal fou à concentrer mes pensées. Et alors, il me dit, en même temps, ah, je voudrais avoir la victoire sur ceci, la victoire sur cela, mais nous ne sommes que des hommes. Et je voyais un espèce d'esprit défaitiste, quelque part, loin de la plénitude du Saint-Esprit. Je me suis dit, il a besoin d'aide. Et puis il me dit, la Bible, je la lis dans le métro. Évidemment, il a une heure de transport aller, une heure de transport retour, 2 heures de lecture biblique, c'est pas mal. Hein. Simplement, au lieu que la Bible alimente ses pensées, son cœur et son âme pour louer Dieu, elle arrive à la fin et dans un lieu public, un transport public, ce qui est intéressant, il faut le faire. Hein. Il faut lire la Bible dans les transports en commun, mais quelque part, il se prive de la force de la parole. Et je lui ai expliqué ce qu'un grand homme de Dieu, qui est dans les cieux maintenant, depuis pas mal de siècles, un siècle et demi, il procédait de la sorte, il se levait le matin, il se lavait, il se mettait à genoux devant une chaise, il posait sa Bible, il l'ouvrait dans le livre des psaumes, il prenait des psaumes d'adoration, de louange, il lisait les psaumes, et par rapport à ce qu'il venait de lire, eh bien, sa prière était alimentée par le texte biblique. Il était ainsi sûr de ne pas égarer ses pensées n'importe où. Il avait une base, la parole de Dieu, en l'occurrence un psaume, et puis il partait sur cette base pour commencer à louer Dieu, à le remercier et à faire des actions de grâce. Alors mon frère en Christ m'a dit, « Ah ben Jean, ça c'est intéressant, je vais essayer de faire ça. » Alors je lui dis, « Surtout, hein, Ne supprime pas la lecture dans les transports en commun des Saintes Écritures, mais rajoute au début du culte, ça va structurer tes pensées. » Donc, lecture d'un psaume, comme cet homme qui est auprès du Seigneur, qui s'appelait Georges Muller. Chanter un cantique de louange à voix haute, si vous êtes chez vous et que tout le monde est réveillé, ou alors à voix basse si vous êtes chez vous et que quelqu'un dort encore. C'est pas impossible. Si vous êtes, vos parents ne seraient pas au Seigneur et que vous êtes réveillés pour rencontrer Dieu de bonne heure, bon, évitez peut-être de les réveiller, ça pourrait les irriter. Mais enfin, si Dieu vous pousse à chanter à voix haute, c'est peut-être parce qu'il veut aussi, par votre chant, toucher leur cœur. Je ne sais, c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. Mais chanter un cantique de louange à voix haute ou dans notre cœur, voilà une manière donc d'exprimer la louange dans notre culte personnel. Et puis naturellement, nous le verrons et vous le découvrirez, ou vous pourrez m'en rendre témoignage éventuellement, la louange débouche sur l'adoration. Et louange et adoration, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans ce terme adoration, la Bible désigne l'humble hommage au Dieu souverain. C'est-à-dire, c'est l'inférieur qui s'incline respectueusement devant son supérieur. Dans cette relation d'amour et de filiation que nous avons avec Dieu, par sa grâce, il y a toujours une notion de, quelque part, de hiérarchie, de respect. Enfin, il me semble, peu que je connaisse de la culture vietnamienne, ces choses sont bien ancrées, si je ne me trompe, dans votre culture. Le respect des personnes âgées, des pères, en quelque sorte. Et nous, occidentaux, européens, des fois, on perd un peu cette notion de devant Dieu. C'est le maître souverain absolu, même si c'est notre Père qui nous aime et que nous sommes ses enfants, c'est Dieu. Et avec tout le respect qu'on doit à Dieu, lié justement à notre filiation en Christ, eh bien, nous allons donc l'adorer. Et l'adoration, à la différence de la louange, c'est vraiment un moment où on est en présence de celui qui est au-dessus de nous. Adorer, c'est se tenir devant Dieu en contemplation, contemple Dieu, prêt à le servir. Les amoureux, certainement, vont peut-être plus facilement comprendre ça, parce que vous savez que les amoureux se regardent face à face, les yeux dans les yeux, puis ils trouvent le temps trop court. C'est jamais suffisant. Il y a donc une contemplation de l'autre. L'amour est entre autres, comment dit-on, il y a dans l'amour évidemment de l'admiration pour la personne que l'on aime. Et donc vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose, nous sommes dans l'admiration devant Dieu, devant sa beauté, sa gloire, sa sainteté, sa pureté, sa délicatesse, sa miséricorde, ses compassions. Nous sommes littéralement dépassés. Dans le sens noble du terme, nous sommes en adoration, en contemplation devant lui, prêts à le servir. L'adoration, c'est donc essentiellement une attitude devant Dieu. Elle peut être silencieuse, mais nous pouvons aussi exprimer nos sentiments profonds. Quelqu'un, dans une prière, disait « Je me courbe devant toi, maître souverain, créateur du ciel ». Et je me suis souvenu de cette prière de dédicace du temple par le roi Salomon. En 1 Roi chapitre 8, verset 23, les premières phrases, le roi Salomon a dit il y a bien des siècles, « Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, etc. » Donc vous voyez, vraiment, l'adoration, c'est considérer Dieu pour ce qu'il est. Et ces choses vont faire jaillir en nous, et bien entendu, la notion d'obéissance. Si Dieu est supérieur et au-dessus de tout, et fidèle, parce que Salomon va continuer sa prière en parlant de la fidélité de Dieu, alors cela nous donne envie d'agir et de nous permet de prendre véritablement conscience de devant qui nous nous trouvons à chaque instant de notre journée, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans la rue, en faisant des courses, on est en présence de Dieu. Et cela, évidemment, va changer énormément de choses si nous avons à l'esprit et dans l'âme cette notion de la présence de Dieu. Tout ce que vous faites, avait dit Paul, l'apôtre Paul, faites-le pour la gloire de Dieu. Soit que vous viviez, soit que vous dormiez, c'est pour la gloire de Dieu. Voyez la présence constante, permanente de Dieu, et nous, en tant que sacrificateurs et rois en Christ, eh bien, nous représentons en permanence et nous exprimons à chaque seconde cette réalité de la présence de Dieu. Le peuple juif, lui, va, par exemple, porter pour les hommes une kippa. Quand vous voyez un ami d'Israël pratiquant, où il aura le grand chapeau noir à bord large, Ou alors il aura la kippa, ça veut dire Dieu est là. Il sait que Dieu est présent. Ensuite, l'intercession, dans le cadre du culte personnel. L'intercession, c'est avoir une liste, par exemple un carnet de prières. On est quand même vite oublieux et on a besoin de structure des fois. Et je me souviens de ces sœurs en Christ qui âgées, ces femmes âgées dans notre église, qui priaient, puis elles avaient toujours un carnet là. Puis il y avait notre nom dessus, elles nous attrapaient. Je vous ai déjà raconté ça, je crois, il y a quelques années peut-être. Elles nous attrapaient à la fin du culte, hein, puis elles nous disaient, regarde Jean, ton nom est là dans mon carnet de prière. C'était sérieux, hein, on sentait qu'il y avait là un intérêt pour nous, les sœurs en crise d'un âge avancé, leur ministère c'était la prière. Et nous aussi nous devons apprendre cela, avoir un carnet de prière. Avec une liste constante, il y a des besoins constants, et puis une liste variable de personnes, parce qu'une fois que Dieu a exaucé, on peut rayer le nom de la personne, ou on peut l'effacer, puis mettre un autre nom. Donc une liste constante de besoins constants, et une liste variable. L'exemple de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Donc voilà, ça c'était une constante dans la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. « Je ne cesse de rendre grâce. » Donc des actions de remerciement pour les Éphésiens, pour l'œuvre que Dieu avait entreprise dans cette église d'Éphèse. Et il dit « En faisant mention de vous dans mes prières. » En Philippiens chapitre 1, versets 3 à 6, l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières. » Vous voyez, il a vraiment une constante. « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Donc l'apôtre Paul, en dehors de ces périodes d'action, de prédication de l'Évangile, eh bien, il priait en marchant pendant ses déplacements, il priait quand il fabriquait les tentes, là, puisque pour gagner sa vie et n'être à la charge de personne, il priait. Et dans l'épître aux Thessaloniciens, voilà ce qu'il va leur dire, « Nuit et jour, nous prions Dieu avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Donc il priait avec une extrême ardeur. Mais c'était pas en train de se sommeiller et de s'endormir. Hein. Il priait avec une extrême ardeur. Et il va dire, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, quand il s'adresse encore aux Thessaloniciens. Le risque pour nous aujourd'hui, c'est que la télévision ait pris la place de toutes ces choses, ait pris beaucoup de temps, ou les tablettes, iPad, ou Samsung, ou tous ces moyens de communication, de iPhone, iPad, et puis je ne sais plus quoi là encore, quoi pour la musique là. iPod, voilà, c'est ça qui me manquait, iPod. C'est, moi, je vois des chrétiens qui arrivent au culte avec des écouteurs là et des petits fils blancs là. Puis je sais ce qu'ils ont dans la poche, mais je me dis, est-ce qu'ils ont toujours ça? Parce que comment voulez-vous prier pour correspondre à ce que les saintes écritures nous enseignent si vous avez toujours quelque chose qui bouge, la télé ou autre chose? Il y a un moment donné, il faut savoir se discipliner et pour pouvoir pénétrer dans plus avant dans le royaume de Dieu, pendant notre pèlerinage terrestre. Je dirais les choses comme ça. Ensuite, dans notre culte personnel, il y a les prières de supplication, c'est-à-dire des requêtes instantes dans lesquelles nous mettons tout notre cœur et toute notre âme, où le temps ne compte plus. Je connais des chrétiens, ils disent, ils regardent leur montre, hein. Et puis, si jamais vous dépassez d'une minute le culte, ils partent, ils quittent l'église, hein, pour aller s'occuper de leur repas, enfin, je ne sais pas quoi. Mais c'est des obsédés de l'horaire, quoi. C'est-à-dire, ils accordent à Dieu, admettons, une heure. Après, non, c'est fini, c'est autre chose, quoi. Mais, enfin, la prière de supplication, on ne peut pas se dire, je vais rester 5 minutes. On ne sait pas comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Comment il va faire qu'il va nous saisir et puis faire en sorte que d'un seul coup, on va prier sans s'en rendre compte, on va prier davantage, une demi-heure, peut-être une heure, être avec d'autres frères et sœurs, et puis le temps, l'horloge tourne, et on se dit, c'est incroyable. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si nous commençons, à calculer telle heure à telle heure, c'est pour Dieu, après, c'est autre chose, mais on ne peut pas faire ça systématiquement. Évidemment que quand on va au travail, faut être à l'heure au travail, c'est un témoignage, et puis il faut faire ce qu'on a à faire. Mais quand on a du temps de libre, il faut aussi savoir le donner à Dieu. Après tout, le temps de libre lui appartient, pas à nous. Rien ne nous appartient. Paul aux Éphésiens dit au chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. » La puissance de l'intimité avec Dieu requiert la prière. On ne peut pas pénétrer dans une intimité avec Dieu qui va entraîner des changements extraordinaires dans nos vies, et qui va des changements personnels, et qui va entraîner aussi des changements dans la vie de ceux qui nous entourent par notre témoignage et par l'œuvre du Saint-Esprit que Dieu voudra bien accomplir au travers de chacun d'entre nous. Si nous ne prenons pas ces instructions au sérieux, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est la vie du disciple. 1 Timothée chapitre 2 verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose, dit l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Vous voyez, vous cherchez des sujets de prière, ils sont instruits là, ils sont indiqués ici. 1 Timothée 5:5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Alors apprenons, je ne sais pas s'il y a des veuves ou des veufs parmi nous, mais en tous les cas ce n'est pas mon cas, mais ce n'est pas une raison pour ne pas persévérer dans le domaine de la prière. Et puis pour terminer, pour notre culte personnel, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la lecture de la Bible. À sa place, au début du culte, me semble-t-il, et peut-être ensuite au milieu du culte, etc., du culte personnel. La lecture de la Bible dans le psaume 19, verset 8, il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Il y a des choses spirituelles, des vérités, des expériences spirituelles avec Dieu que nous ne pourrons découvrir que si nous passons du temps personnellement, dans notre culte personnel, isolé, en quelque sorte, seul dans un face-à-face avec Dieu. Dieu va nous révéler des choses selon ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Il va nous faire pénétrer davantage dans une connaissance de sa personne. Il y a d'autres choses que Dieu ne nous révélera jamais en dehors de l'Église. C'est dans l'Église, votre Église locale, lors des études bibliques, des cultes, que Dieu va vous faire comprendre des choses et vous ne les fera pas comprendre dans l'intimité avec lui. Et vice-versa, ne négligeons ni l'un ni l'autre, ni le culte personnel, parce que là, Dieu se plaît à se faire connaître à nous, et ni le lieu d'études bibliques et le culte en commun, parce que là aussi, Dieu se plaît à se faire connaître à chacun d'entre nous. Et il ne mélange jamais les lieux. Parce que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, comment nous le communiquer et à quel moment le faire. Et si nous sommes devant lui, le matin, régulièrement, alors Dieu va nous voir du haut des cieux et selon sa sainte volonté, il accomplira ses desseins envers nous. Que Dieu nous conduise, vous et moi, dans cette pratique du culte personnel. Profitons de ce temps de vacances qui s'annonce pour justement apprendre ces choses, les vivre et pouvoir donc les utiliser tout au long de l'année. Merci de prier pour moi parce que à la début juillet jusqu'à la fin du mois de juillet, je vais partir avec une équipe de notre église pour faire de l'évangélisation pendant un mois sur l'île de la Réunion. Alors vous allez me dire c'est paradisiaque, j'y suis allé l'an dernier tout seul, puis là ils m'ont dit « Ah mais Jean, il faudrait que tu reviennes ». J'aurais dit « Écoutez, oui, mais on peut envisager quelque chose d'un peu plus grand, c'est un peu que ma petite personne ». Alors ils m'ont dit « Bah oui, pourquoi pas », donc ça s'est mis sur pied. Alors on aura sûrement un peu de détente, hein. Je pense qu'ils vont quand même nous permettre de plonger dans l'océan Indien, loin des requins. Mais en tous les cas, merci de prier à l'occasion, parce qu'on s'en va là-bas pendant un mois, et j'ai vu le programme, c'est pas mal. Hein. Ça va y aller. Quoi. Donc merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous et les familles que vous représentez. Amen.